Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Te remercier pour tes merveilles, pour ta protection, pour ta grâce envers nous, car nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne méritons pas une si grande grâce, une si grande miséricorde, une si grande sollicitude de ta part. Mais Seigneur, tu ne te lasses pas de nous aider, de nous secourir. Tu ne te lasses pas de nous pardonner, Seigneur, parce que tu ne nous comptes même pas selon nos péchés, nos iniquités. Donne-nous, Seigneur, d'être sensible à ta parole. Sensible, Seigneur, et d'être obéissant, de revenir à toi, Seigneur. Ô Jésus, veuille nous parler encore, je t'en prie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ô Jésus, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans la parole de Dieu au chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 15, merci, Père. Luc. Aïe, aïe, aïe. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 1er. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle perde 1 drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. C'est tout ce que nous lirons. Perdu et retrouvé. Il y a 2 dimanches de cela, nous avions parlé de cette brebis perdue. Perdu, c'est un mot que nous n'aimons pas entendre, mais c'est un mot que nous avons presque tous les jours dans la bouche. Nous avons vu qu'un peu, qu'on peut perdre beaucoup, beaucoup de choses, dans un sens abstrait ou dans un sens concret. On peut perdre son honneur, on peut perdre sa crédibilité, on peut perdre sa foi, on peut perdre sa fortune, on peut perdre des choses que nous considérons comme étant des valeurs à notre propre niveau, mais qui sont des valeurs que pour nous-mêmes et non pas pour les autres, tandis que il y a des valeurs qui sont des valeurs pour tout le monde, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les maisons, que sais-je encore. Mais il y a des choses qui n'ont qu'une valeur toute personnelle. Ces choses qu'on appelle perdues le sont à cause de la valeur qu'on y met. On ne va pas perdre, on ne va pas parler de perdre une chose qui n'a pas de valeur. Une chose qui n'a pas de valeur, on ne dit pas qu'on la perd, non, on dit au contraire on la jette. On la jette parce que pour nous elle n'a plus de valeur. Elle n'a plus de valeur. Elle ne représente plus rien du tout. Une pièce d'une voiture qui est usée et qui n'est plus utilisable, Eh bien, nous n'allons pas la garder. Pour nous, elle n'a plus de valeur. Nous la jetons. De la nourriture que nous avons achetée, nous avons dépensé de la valeur pour cela. Mais voici, cette nourriture est devenue mauvaise. Et pour nous, elle a perdu sa valeur et nous la jetons. On ne va pas parler de perdre pour des choses que l'on considère sans valeur. Mais cette valeur est toute relative. Elle n'est pas forcément une valeur marchande. Donc, dans le mot « perdre », ça inclut beaucoup de choses, beaucoup de principes. Au point de vue matériel, mais aussi au point de vue moral et même spirituel. Cela peut être une valeur toute personnelle, comme cette petite pièce que cette femme a perdue. Cette petite pièce, cette drachme. La drachme, c'est une petite pièce. Une petite pièce qui a une certaine valeur, bien sûr. C'est égal à un denier. Le denier, c'était cette même pièce, mais les Romains l'appelaient le denier, tandis que les Grecs appelaient cette petite pièce la drachme. Elle a fondamentalement la même valeur, la valeur d'une journée de travail à cette époque-là. Cette pièce que cette femme a perdue, elle a de la valeur pour elle, mais peut-être que pour un gros riche qui brasse les millions, qui a beaucoup de biens, beaucoup d'investissements, cette petite pièce n'aurait aucune importance. S'il la perdait, ça ne va pas affecter sa vie. Elle a une valeur négligeable pour lui. Et s'il la perd, il ne va pas la chercher. Mais cette femme n'en a que 10 de ces petites pièces. En perdre une, c'est trop. Et c'est pour elle une valeur. Une valeur est un symbole. Remarquons la valeur relative des choses perdues dans ces trois paraboles. Il y a 15 jours, nous avons parlé de la brebis perdue. Aujourd'hui, je vous ai parlé lu une partie de ces trois paraboles. Pourquoi? Parce que là, il y a un principe. Là, il y a une pensée que le Seigneur désire nous communiquer. Remarquons la valeur relative des choses perdues dans ces trois paraboles. D'abord, une brebis perdue dans un troupeau de 100 têtes. Une sur 100. Cette brebis a été perdue et s'est perdue elle-même, je dirais par bêtise, par ignorance. Tout simplement, elle n'a pas voulu suivre le berger, elle n'a pas voulu suivre le troupeau. Elle était attirée par cette herbe qui lui paraissait meilleure là-bas de l'autre côté. Elle ne voulait plus brouter dans le pâturage où le berger les avait menés. Elle a voulu aller manger cette herbe là-bas qui lui semblait meilleure. N'est-ce pas ainsi que bien souvent dans le troupeau du Seigneur, nous nous conduisons nous-mêmes? Nous entendons là-bas cet homme qui, soi-disant, apporte des études bibliques supérieures, apporte un enseignement, et surtout des miracles, que sais-je encore, et de nouvelles révélations. Alors nous nous écartons du troupeau et du pâturage où le Seigneur nous a placés. Et nous allons là-bas pour brouter cette herbe qui nous empoisonne, cette herbe qui nous égare. Et nous ne pouvons plus retrouver le troupeau parce que nous devenons juges de tout le monde. Et jamais, qui que ce soit dans notre église n'est assez parfait pour comprendre ce que nous avons compris. Jusqu'au jour où nous sommes malheureux, avec des indigestions, est prêt à mourir au bord du précipice. D'abord, une brebis perdue par sa bêtise et par son ignorance. Une sur 100, le berger quitte le troupeau pour la chercher. Puis, ensuite, Jésus nous parle d'une pièce parmi 10 pièces. Mais une pièce ne peut pas être accusée d'être perdue par sa propre volonté, par son propre choix. Non, c'est une chose. C'est une chose. Ce n'est pas quelque chose qui a la vie en soi et le pouvoir de décision. Mais c'est plutôt une chose. Une chose qui était négligée, qui était dans la main, mais qui était perdue par négligence. Encore une pensée que le Seigneur veut nous communiquer. Et enfin, il s'agit du Fils sur deux. L'un d'eux est perdu par sa propre volonté, est perdu par son propre choix, est perdu parce que lui-même a voulu choisir sa propre destinée. Jésus leur dit par là, il dit à ses interlocuteurs, qui l'accuse et qui le critique parce qu'il s'occupe des perdus, parce qu'il reçoit les gens de mauvaise vie, les menteurs, les voleurs, les corrompus, parce qu'il reçoit et mange avec les publicains et les gens, les pécheurs, regardés par les bien-pensants et les moraux impeccables, regardés comme étant une quantité négligeable. Alors Jésus veut leur dire par là, vous me critiquez parce que je reçois les péagers, les gens de mauvaise vie. Vous me critiquez parce que je cherche les brebis perdues et que je mange avec eux. Mais vous, ne cherchez-vous pas une brebis perdue, même si vous en avez déjà 100? Et la femme qui cherche sa pièce perdue sur 10 pièces, ne cherche-t-elle pas en balayant toute sa maison pour trouver cette seule pièce qu'elle a perdue? Alors, laissez-moi chercher le fils perdu. Ce fils que je cherche, c'est le pécheur, c'est le menteur, c'est l'adultère. Ce fils, cette pièce d'une grande valeur à mes yeux, qui est perdue. Laissez-moi la chercher. C'est cette femme de mauvaise vie, cette prostituée, c'est ce féticheur, c'est ce criminel, c'est ce pilleur. Cette pièce qui pour moi a de la valeur et que vous méprisez, c'est cet homme armé qui vous menace dans vos maisons pour vous prendre vos biens. C'est cette personne méprisée par tous, estropiée au bord de la route, qui mendie et qui ennuie tout le monde au passage, et quand on lui donne rien, il tape avec force sur la carrosserie de votre voiture ou vous insulte. Voilà pourquoi moi je suis venu dans le monde. Vous cherchez la bête perdue de votre troupeau alors que vous en avez 100. Vous cherchez la pièce perdue dans votre maison alors que vous en avez 10. Laissez-moi chercher celui qui est perdu, car cet homme, aussi mauvais soit-il, cette femme aussi souillée soit-elle, je le cherche et je la cherche. Ce sont les malades, dit-il, qui ont besoin du médecin et non les bons bien portants. Un médecin ne va pas choisir les bien portants. Un bien portant, si on doit le soigner, qu'est-ce qu'on va lui faire? Dites-moi un peu. Un bien portant, peut-être qu'il a un petit bouton quelque part. Eh bien, c'est peu de choses pour le médecin que de le soigner. Mais vous avez des malades, il faut vraiment de l'amour pour les soigner. Ils sont là inconscients sur leur lit. Ils sont là avec des plaies. Ils sont là, il faut les soigner comme des enfants. Ils font tout dans leur lit. Est-ce qu'il ne faut pas de l'amour pour les soigner? Est-ce qu'il ne faut pas de la consécration pour les soigner? Jésus a dit, je suis venu pour cela. Que représente cette somme d'argent pour cette femme? C'est une valeur à ses propres yeux. Cette pièce perdue représente d'abord, comme je l'ai déjà dit, une journée de travail pour un ouvrier à cette époque-là. C'est sa valeur. Elle en a 10. C'est toute sa fortune. C'est peut-être le montant de l'argent qu'elle a apporté dans le foyer lors de son mariage. Et peut-être, je suppose, pour protéger son avoir, elle et son mari se sont mariés sous le régime de séparation de biens. Car ni le mari ni elle ne sont très riches. Ils ne sont pas riches, mais ils ont une petite valeur. une petite valeur qu'ils veulent garder. Alors, si par exemple les affaires du mari ne vont pas et qu'il tombe dans la faillite, on ne pourra pas saisir les biens de sa femme et il aura toujours espoir de repartir dans la vie. C'est ainsi que cette somme d'argent, aussi dérisoire soit-elle pour le riche, c'est une somme d'argent qui a beaucoup de valeur pour elle. Et du reste, même si, disons, un supposé, chose horrible, chose malheureuse, à supposer que son mariage soit dissous, elle a toujours une valeur qui lui appartient et qu'elle peut retirer. La famille n'est pas riche ni du côté de son père, ni du côté de sa mère. Cette petite pièce est précieuse pour elle. Elle doit la chercher. Elle doit la retrouver. Elle allume une lampe, nous dit la parole de Dieu. Ces petites lampes à huile. Elle allume une lampe qui n'éclaire pas tellement, mais qui éclaire quand même. Le sol de sa maison est rugueux. Ces gens qui n'étaient pas riches à cette époque-là, ils avaient des maisons comme un genre de cube, si vous voulez, juste avec une seule pièce. On vivait là, on faisait tout dans cette pièce. Et il y avait un escalier à l'extérieur, le long du mur qui montait sur le toit. Le toit était plat, et souvent on se tenait sur le toit où on mettait des choses séchées au soleil. Et certaines fois, on faisait un peu d'ombre avec quelques plantes qui poussaient là sur le toit. Le sol était recouvert de pierres plates, rugueuses, jointes ensemble, mal jointes. Il y avait des fentes là entre les pierres. Et il arrivait que les pièces de monnaie tombent ainsi. Elles se cachent dans les fentes des pierres du sol. Du reste, dans les découvertes archéologiques, où se trouvaient ces maisons, on voit encore ces parterres de pierres mal jointes. Et on a découvert dans ces pierres, en effet, des petites pièces de monnaie qui étaient perdues là dans la fente des pierres. Et c'est ainsi que les archéologues ont pu dater plus ou moins exactement l'époque où ces maisons ont été construites. Elle est là, dans sa maison. Elle prend un balai. Elle prend un balai, elle balaye. Elle bouge tous les meubles, tout le lit, l'armoire, le buffet, le coffre, que sais-je encore, chaque marmite, elle balaye, elle soulève la poussière, elle cherche sa pièce à la lumière de cette petite lampe. Elle doit trouver cette pièce. Subitement, alors qu'elle balaye, un éclair d'argent, une lueur, son cœur bat, c'est la pièce, elle l'a retrouvée. Elle l'a retrouvée, elle la prend, elle est toute heureuse, elle est toute joyeuse. J'ai retrouvé ma pièce, elle sort, elle va voir ses amis qui sont autour de là. Elle leur raconte son histoire. Écoutez-moi, je vais vous dire, vous saviez, j'avais 10 drachmes. L'une d'elles était perdue, je ne sais pas comment elle m'a échappé. J'ai balayé, j'ai cherché dans toute la maison. Ma maison est toute bouleversée, mais j'ai retrouvé ma pièce. Elle raconte son histoire, elle y ajoute encore. Elle se réjouit. Histoire bien simple. Mais Jésus a toujours choisi des histoires simples pour nous apporter des vérités très profondes. Et il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Joie pour avoir retrouvé, joie pour avoir ramené ce qui était perdu, même une simple petite unité. Voyez-vous, nous dans notre monde, nous voyons les foules, nous voyons l'ensemble, nous manions les foules. Oui, peut-être, mais Dieu, ce n'est pas ainsi qu'il fait. Il travaille sur l'individu, sur l'unité. Cette petite unité, elle a de la valeur pour lui. Elle a de la valeur à ses yeux. Le mot perdu prédomine encore ici. La pièce n'a pas de vie en elle-même. Elle n'a pas de vie en elle-même. La pièce de monnaie n'a pas de volonté en elle-même. Elle n'a pas de choix en elle-même. Elle n'est pas responsable de sa perte. On ne peut pas dire qu'elle soit responsable. Elle a glissé de la main de celui qui la tenait. Et c'est ainsi que des gens sont perdus comme une pièce qui glisse de la main. Ils sont perdus par la faute de la main qui les tenait. Et non par leur propre faute. Le fait est que beaucoup d'hommes vivent comme ils vivent, non par choix, mais à cause des circonstances cruelles dans lesquelles ils se trouvent, incontrôlables pour eux-mêmes. Souvent, ils sont perdus à cause des autres. Et là, mes frères, nous devons comprendre notre responsabilité. Sachons que chacun de nos actes porte à conséquence sur quelqu'un d'autre. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes pour satisfaire à nos propres convoitises. Et chacune de nos actions porte à conséquence sur un autre. Porte à conséquence. Et c'est ainsi qu'il y a des hommes et des femmes qui sont perdus à cause de l'inconséquence et de l'égoïsme des autres. Et c'est ainsi que nous voyons dans notre société des familles entières qui sont perdus à cause de l'inconséquence du chef de la famille. Nous voyons des enfants qui sont perdus à cause de l'inconséquence des parents qui ne prennent pas leurs responsabilités. Nous voyons ainsi dans notre société des hommes et des femmes qui sont perdus à cause de l'inconséquence de l'autorité qui dirige cette société. Nous voyons des nations entières être perdues parce que ceux qui sont à la tête ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité. Ils négligent la pièce, ils négligent la valeur qui se trouve dans leurs mains. Ils ne pensent qu'à leur propre fin, qu'à leur propre bénéfice, qu'à leur propre satisfaction. Mais Dieu a mis dans ta main une valeur. Et tes actes, tes actions portent à conséquence sur la société. Si tu as une responsabilité, tu es un PDG quelque part, tu as une responsabilité politique, nationale, locale, que sais-je, tu as une responsabilité au niveau de ta famille, Dieu a placé dans ta main des pièces. Et ces pièces, tu peux les perdre. Elle est perdre dans la poussière des désordres de la saleté du monde. Perdre. Mais tellement de fois, nous négligeons ces pertes. Pourvu que moi j'aie ce qu'il me faut, je m'en fiche des autres. Eh bien, sache que tu auras des comptes à rendre sur ces valeurs que Dieu a mises dans ta main. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui tombent dans des aberrations terribles à cause du mauvais exemple de ceux qui sont au-dessus d'eux. Le chef vole, le chef profite, pourquoi pas moi? Je connais ici des hommes qui ont refusé, alors qu'ils occupaient des postes importants dans des sociétés où ils travaillaient, ils ont refusé de faire comme les autres. Ils ont refusé de prendre les camions de la société à leur propre bénéfice pour construire leur maison. Ils ont refusé de prendre l'argent de la caisse pour se l'approprier pour eux-mêmes. Tous leurs amis leur ont dit, tu es un fou, tu es un... Pourquoi tu ne profites pas? Tu as cette place, profites-en. Ils ont refusé. Voilà les vrais citoyens d'un pays. Car il y en a d'autres, des subordonnés qui les suivent, qui voient leur exemple et qui voient comment on doit se comporter dans la société. Voilà les vrais patriotes. Je suis fatigué de ces gens qui disent notre cher pays, notre foi, notre cher Zaïre, notre cher et beau pays, alors qu'on le pille, alors que les valeurs que Dieu a mises dans notre main, nous les gaspillons, nous les perdons et nous pensons qu'à notre propre ventre. Mais sachez qu'il y a un jour de rétribution. Et si la rétribution ne vient pas aujourd'hui, est sur cette terre, est ici-bas, un jour cette rétribution sera rendue devant le jugement du Dieu vivant et juste qui punit le péché et l'iniquité, mais qui fait grâce à ceux qui se repentent. C'est pour cela que nous prêchons l'Évangile, afin de réveiller les consciences des hommes et des femmes. Oui, combien ont été perdus à cause de l'inconséquence, de l'égoïsme de ceux qui les tenaient dans leurs mains. Combien dans le monde sont victimes, sont perdus, non pas à cause d'eux-mêmes, de ce qu'ils auraient fait, mais à cause des autres, à cause de l'hérédité, à cause de l'alcoolisme des parents, à cause de la débauche des parents. Regardez ces enfants qui mettent au monde tarés et marqués à cause du désordre des parents. Marqués à cause du divorce des parents. Marqués à cause de l'immoralité de ceux qui devaient les conduire, de ceux qui devaient les aider. Ils ont glissé de la main qui devait les conduire. Y en a-t-il ici qui ont glissé, qui ont travaillé dans des sociétés et qui ont vu la magouille qui a été commise par les dirigeants et les chefs et qui ont dit, ben, lui il le fait, pourquoi pas moi? Et qui sont tombés plus bas, sans aucun honneur, ils ont perdu leur honneur, ils ont perdu leur foi, ils ont perdu leur religion, ils ont perdu leur moralité, ils ont tout perdu dans la poussière, perdu! La pièce que Dieu t'avait donnée et que tu as dans la main, tu l'as négligée. Toi qui as une responsabilité. Et presque tous les hommes mariés ici, dans cet auditoire, ce sont des hommes auxquels Dieu a mis une valeur dans la main. Ta femme, c'est une valeur. Tes enfants, ce sont des valeurs. Mais tu les laisses tomber et tu les négliges. Et ils sont perdus à cause de toi, de ton immoralité. À cause des passions mauvaises qui sont dans ton cœur, à cause de ton égoïsme. Beaucoup sont perdus à cause des autres, mais Dieu nous demandera des comptes. On perd sa dignité, on perd son orgueil, son honneur, on perd son caractère d'intégrité, on devient menteur et voleur, on perd tout sens du bien et du mal. Toi, Congo, où vas-tu aller maintenant dans les nouvelles années qui viennent et dans ces nouvelles pages de ton histoire? Comme un virus, l'homme est atteint. Comme un virus, l'homme est infecté. Comme un virus, la société est infectée, entraînée, emportée par une marée de boue. Une marée de boue qui l'entraîne dans le mensonge et dans toutes sortes d'expédients malheureux qui ne sont que la manifestation de l'égoïsme. Beaucoup sont ainsi perdus, alors qu'ils n'ont pas choisi ce chemin-là. Victimes innocentes d'idées et de philosophies qui s'affrontent, d'idées et de philosophies qui n'ont rien apporté, rien. Ces grandes foules autrefois qui chantaient et qui louaient l'homme. Ces foules ont été perdues par l'idolâtrie et le culte de la personnalité. Aujourd'hui, le chaos est la faim, le malheur est les larmes. Victimes innocentes d'idées philosophiques s'affrontent. Souvent, les responsables sont une poignée d'hommes et les victimes sont des millions et des millions. Perdus dans la masse, perdus dans la tempête, plus retrouvés, manquants. Une vie perdue est une vie que Dieu ne veut pas perdre. Vous m'entendez? Une vie perdue est une vie que Dieu ne veut pas perdre. Notre civilisation est vraiment étrange. Elle est étrangement contradictoire. D'un côté, elle bâtit des écoles pour les pauvres et les déshérités. Elle fait des centres pour les handicapés, pour les rééduquer, pour leur donner un métier. Elle engage des chercheurs, des savants, à des prix énormes, dans des laboratoires sophistiqués et coûteux, afin de découvrir des vaccins, afin de découvrir des médicaments qui puissent pallier à de nouvelles maladies et de nouvelles épidémies. On cherche à sauver les vies de mille façons, à prolonger artificiellement pendant des mois et certaines fois des années, des gens accidentés qui ont des traumatismes, qui les ont jetés dans le coma. On y met des tubes, des appareils artificiels pour les maintenir en vie en espérant que un jour ils vont se réveiller. Ceci arrive des fois pendant, après 5 mois, après 6 mois, des fois même après 1 année. Subitement, la personne revient à elle et elle vit. On fait tout pour la faire vivre. Et d'un autre côté, combien de centaines de milliers de femmes avortent? Elles vont dans des cliniques spécialisées pour les avortements. Pourquoi? On veut le plaisir, mais on veut pas la responsabilité. Et on tue l'enfant dans le sein de sa mère. De notre côté, on fabrique des armes en quantité, en quantité. Qui aurait dit que dans notre ville de Kinshasa, il y aurait tant d'armes, de milliers d'armes dans la maison de quelques individus? Qui aurait dit cela? Qui aurait dit qu'il y avait le potentiel pour jeter notre ville dans le désastre le plus complet, dans la mort, le sang, les blessés et les morts et la destruction? Qui aurait dit cela? Et qui fabrique ces armes? Tous ces pays industrialisés, ils les fabriquent, ils les inventent de plus en plus puissantes pour mieux détruire. Pourquoi? Pour l'argent, pour le rapport, pour le commerce. Ignominie. D'un autre côté, le monde est inondé. Inondé, comment se fait-il que dans le coin le plus éloigné de la brousse, on trouve des armes sophistiquées, alors qu'on trouve même pas le médicament pour soigner le pauvre malheureux? On fomente des guerres inutiles qui n'engendrent que ravages, morts, destruction, famine, pauvreté, misère. On a des haines aujourd'hui à travers le monde. Ce sont ces guerres ethniques. On l'a vu là-bas en Yougoslavie, croate, entre croates, serbes, des haines. Qui font que des milliers d'hommes et de femmes innocents sont tués, jetés dans des gros trous recouverts de terre. Guerre ethnique. Nouveau mot, nouveau genre de haine dans le monde, satanique. Guerre ethnique que nous voyons et que nous avons vu au Rwanda. Guerre ethnique que nous entretenons même dans nos cœurs, même si nous n'agissons pas avec la haine que nous avons pour telle autre ethnie. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan, mes frères. Qu'allons-nous faire dans notre nouveau pays, nouveau comment? C'est un vieux pays, mais un vieux pays qui est asservi Satan, les faux dieux, les idoles, l'occultisme. Nous devons, frères et sœurs, revenir à la parole de Dieu et changer notre cœur et notre attitude. Personne ne gagne jamais dans une guerre, personne. Personne ne gagne dans la destruction et la mort. Tous se perdent dans le malheur, dans les larmes, dans la souffrance, dans la mort. Perdus. Perdus parce que la main qui devait les tenir l'a lâché et n'a pas fait son devoir. Perdus. Parce que celui qui avait la responsabilité a négligé cette pièce, n'a pas rempli ses obligations légales. Celui qui tenait cette valeur dans sa main, et dans notre pays, il y a de grandes valeurs. Mais cette valeur a été négligée, valeur morale, ma valeur sociale, valeur légale, valeur spirituelle. Plus d'exemples à suivre, puisque partout, on est dans la magouille, puisque partout on est dans la corruption et le mensonge. Le résultat, en un mot, perdu. Notre civilisation est inconsciente. Un intérêt égoïste la motive. Intérêt d'un homme, intérêt d'un groupe d'hommes, et non l'intérêt du plus grand nombre. Voilà où nous en sommes. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire alors qu'une page de l'histoire a été tournée pour nous? Allons-nous recommencer comme des irresponsables? Mais l'évangile de Jésus-Christ se concentre sur l'individu auquel il attache une grande valeur. L'individu. Par sa croix, Jésus lie les hommes dans une fraternité nouvelle. une fraternité merveilleuse. Et chacun est précieux à ses yeux. Oui, chacun. Ce mendiant au bord de la route, il est précieux à ses yeux. Ce pilleur armé qui terrorise tout le monde est précieux à ses yeux. Cet homme d'une autre tribu, ce Hutu, est précieux à ses yeux. Ce Tutsi est précieux à ses yeux. Ce Mungala est précieux à ses yeux. Cet homme corrompu, infidèle, mauvais, méchant, voleur, est précieux à ses yeux. Il regarde l'individu, Jésus. Il se concentre sur l'individu, sur la pièce perdue. Voilà. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. L'individu, la pièce retrouvée, la brebis perdue. Il s'est appelé fils de l'homme lorsqu'il était ici-bas sur la terre. Tel était son titre, fils de l'homme. Et par là, par ce titre, il s'identifie avec chaque vie humaine. Il s'identifie avec le plus faible. Il s'identifie avec le pauvre et le mendiant. Il s'identifie avec le fort. Il s'identifie avec le puissant. Il s'identifie avec l'Africain. Il s'identifie avec l'Européen. Il s'identifie avec l'Asiatique. Il s'identifie avec le Palestinien. Il s'identifie avec le Juif. Quand il se dit « fils de l'homme ». La vie d'un ivrogne, la vie d'un drogué, la vie d'un débauché, la vie du criminel et du voleur, la vie du cruel et sans cœur est infiniment plus précieuse que l'argent, que tous les biens, est infiniment plus précieuse que le pouvoir le plus élevé. Il s'est identifié avec chacun d'entre nous. Christ est venu pour les chercher, ceux qui sont tombés de la main de celui qui était responsable. Comme cette pièce perdue, il est venu les chercher dans tous les coins du monde, dans tous les milieux les plus bas, les plus mauvais. Il cherche encore. Et cette recherche engendre de la poussière. Il y a plein de poussière dans cette maison, sur cette terre, comme cette femme qui balaye sa maison. La poussière accumulée, accumulée par les conflits, accumulée par les destructions, la poussière accumulée par les guerres, les haines, les révolutions, les conflits des cœurs, les conflits des foyers, les conflits des sociétés, une épaisse poussière. Lutte incessante, destruction de la morale, destruction de tous les principes de base d'une société équilibrée par ceux qui sont opposés et qui ne veulent pas donner l'exemple et qui engendrent par leur égoïsme, qui engendrent par leur orgueil des destructions, la destruction de la société. Et qui perdent toutes les valeurs que Dieu leur avait données afin de les mettre justement en valeur. Que reste-t-il à l'individu déchiré? Que reste-t-il à l'individu opprimé, écrasé, complexé, haï? L'individu qu'on tue, comme si c'est peu de choses que de tuer un homme, son frère, fait à l'image de Dieu. Dans cette poussière de ruines morales, de ruines physiques, de ruines spirituelles. Il cherche la petite pièce perdue. Et peut-être que toi, tu es une pièce perdue. Les hommes disent, qu'est-ce que ça peut faire? Il ne sait rien, il n'est jamais allé à l'école. Qu'il se débrouille. Dieu dit, non, c'est une grande valeur. Une grande valeur. Alors, pour chercher cette pièce perdue, et il y en a beaucoup dans notre pays, Dieu prend le grand balai et il commence à balayer tout. Il bouleverse tout. Il bouleverse la tradition. Il bouleverse la société. Il bouleverse les institutions mises en place. Il bouleverse les idées. Il bouleverse les préjugés. Il bouleverse les habitudes. Il bouleverse les coutumes. Il secoue tout.
Pourquoi? Parce qu'il cherche la pièce qui est perdue dans la poussière du désordre de ceux qui étaient appelés à mettre en valeur, mais qui n'ont rien fait que de perdre. Cette petite pièce fait partie d'un ensemble très précieux, qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, pour laquelle il est mort. Tu es peut-être toi aussi une pièce perdue. Aujourd'hui, tu as été bouleversé par le grand balayage que Dieu a voulu faire. Sois reconnaissant de ce que ce balayage ne t'a pas laissé comme un cadavre au bord de la route. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ne méprise pas son appel, je t'en supplie. Ne méprise pas son appel. Tu ne peux pas recommencer une nouvelle société si tu ne changes pas. Nous ne voulons pas recommencer encore. Nous en avons assez des pillages et des balles qui volent partout. Nous en avons assez des peurs et des craintes. Nous en avons assez des magouillages à tous les niveaux. Nous en avons assez des juges corrompus et iniques. Nous en avons assez de ces matalbiches qu'il faut donner pour n'importe quel document et n'importe quel papier. Nous en avons assez de ces accusations injustes. Nous avons assez de ces gens qui gagnent leur procès tout simplement parce qu'ils ont de l'argent et que le pauvre perd toujours parce qu'il n'a pas d'argent. La parabole se conclut par une image étonnante. Oui, par une image de joie dans le ciel. Nous ne pensons jamais à ce que Dieu puisse être joyeux au ciel. C'est pour cela que trop souvent, parmi nous, nous avons une religion triste. Et nous sommes moroses. Notre Dieu n'est pas impassible. Notre Dieu n'est pas insensible. Notre Dieu n'est pas fade et sans relief. Notre Dieu n'est pas seulement sévère et dur. Non! Ça, ce n'est pas Dieu. Que dit le psalmiste? Il y a d'abondantes joies devant sa face. Alléluia. C'est pourquoi, ô peuple de Dieu, racheté, retrouvé, ne sors pas de la main de Dieu. En lui, avec lui, lorsque nous sommes dans sa main, nous sommes en sécurité. Personne ne peut nous ravir de sa main, est-il écrit. Il n'y a que toi-même qui peut sortir de sa main. Il y a de la joie devant Dieu et devant ses anges. Pourquoi? Parce que la petite pièce perdue a été retrouvée. Cette petite pièce unique a une grande valeur à ses yeux. Parce qu'un homme a été retrouvé. Parce qu'un homme a été restauré. Parce qu'un homme a été purifié et pardonné. Parce qu'un homme a été changé est mis sur une route nouvelle en faisant partie de la fraternité merveilleuse des enfants de Dieu. Parce qu'un homme a été lavé, retrouvé, purifié par le sang de Golgotha. Il y a de la joie alors. Le perdu doit être retrouvé. Il y a place pour lui. Et Dieu cherche encore ici au Congo. Baissons la tête. Seigneur Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, c'est à toi que nous nous adressons et que nous crions. Seigneur Dieu tout-puissant, plein d'amour et de compassion, qui ne te lasse pas de pardonner, nous avons besoin de pardon. Seigneur Dieu tout-puissant, le balai que tu as pris à la main pour chercher la pièce perdue était un balai miséricordieux. La poussière s'est élevée, c'est vrai, mais ta miséricorde était plus grande que ta colère. Et tu n'as pas permis que le sang coule abondamment dans nos rues. Tu n'as pas permis que la destruction se manifeste dans notre société. Mais Seigneur, si nous ne changeons pas, que sera alors la prochaine fois? Plus de grâce. Ô Dieu, donne-nous d'être sages. Toi qui es ici, tu es peut-être une pièce qui a été perdue. Une pièce perdue depuis longtemps. Perdue! Pourquoi? parce que celui qui te tenait dans la main t'a négligé et t'a rejeté. Et tu es tombé dans le mauvais exemple que tu as vu autour de toi. Il t'appelle maintenant. Ne veux-tu pas? Ne veux-tu pas te manifester? Il t'appelle maintenant. Toi, pièce perdue, lève-toi. Lève-toi là où tu es. En signe pour dire, Seigneur, je suis là. Reprends-moi dans ta main. J'ai glissé dans la poussière, dans la saleté, dans la boue. Cette boue qui s'étalait partout autour de nous. Lève-toi maintenant, il t'appelle. Il est prêt à te prendre dans sa main, à conduire ta vie. Lève-toi. Il t'appelle, il veut changer ta vie afin que toi, à ton propre niveau, tu contribues à une nouvelle société dans ce pays. Une nouvelle société plus pure, plus vraie, changée, d'une conscience changée. Dieu t'appelle aujourd'hui. Seigneur, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se sont levés ici dans cette salle, perdus qu'ils étaient dans une société qui ne leur a pas montré l'exemple, dans une société qui les a entraînés dans la boue. Mais toi, Seigneur, tu as pris ton balai. Toi, Seigneur, tu cherches encore, et tu cherches encore, et tu cherches encore la pièce perdue. Tu t'occupes de l'individu et parle à chacun de ces individus, Seigneur. Tu les connais chacun d'eux. Parle-leur, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, afin qu'ils changent enfin. Pourquoi le chrétien devrait insulter? Pourquoi le chrétien devrait rentrer dans la violence? Pourquoi le chrétien devrait haïr? Non! Non! Seigneur, aide-nous à vivre notre foi! Frères, sœurs, hommes, femmes, qui que tu sois, apprends à aimer ton prochain. Apprends à aimer ton prochain, quel qu'il soit, de quelque race, de quelque ethnie, de quelque tribu. Aime-le, c'est une pièce dans la main de Dieu de grande valeur. Il a des défauts, mais toi aussi tu en as. Dieu s'occupe de toi. Seigneur, ces hommes et ces femmes, s'il te plaît, donne-leur la force de rester dans ta main. Reprenez vos places.
Chanter le 169 pour la paix que j'ai eu d'homme. Que Jésus m'a dit ma maître. mots à bord. Appuyons sur mon sauveur, mon adorable présence. Me donne le prix bonheur.
Ô Dieu de grâce, qui ne compte pas selon nos péchés et nos iniquités, qui ne te lasse pas de pardonner, qui ne te lasse pas d'oublier nos iniquités et nos révoltes. Ô Dieu d'amour et de compassion, qui cherche encore et qui cherche encore, dans la poussière des désordres de ce monde, la pièce qui a été perdue, que tu veux reprendre et ajouter à ton trésor. Ô Dieu d'amour, donne-nous de comprendre, donne-nous d'être sages, et de revenir dans ta main. Là, nous sommes en sécurité. Merci, mon Dieu, pour ta protection et ta grâce. Tu nous as gardés lors de ces pillages et de ces destructions, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais ta compassion était grande pour nous. D'autres ont été pillés, d'autres ont souffert, ont été blessés. Seigneur, réhabilite-les. Seigneur, rends-leur ce qu'ils ont perdu. Seigneur, guéris les blessures de leur cœur et de leur corps. Nous te prions, entourés de ton amour, et viens à leur secours. Nous te prions, Seigneur, donne-nous à nous, nation congolaise, de changer de route. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Donne-nous de ne pas oublier ta parole que nous avons entendue ce matin. Et Seigneur, que nous la mettions en pratique. Car autrement, la prochaine fois, ta colère sera sans retour. Nous voulons écouter, Seigneur. Accompagne-nous dans nos maisons. Protège-nous et garde-nous. Et donne la paix, la paix, la paix au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.